Bonjour à tous. Premier amphi de ce cours de mécanique des fluides ce matin. Vous allez y retrouver beaucoup de choses que nous avons déjà eu l'occasion de présenter, de commenter ensemble, hein, puisque nous avions fait une petite incursion dans le domaine de la mécanique des fluides au début du premier semestre. Cependant, évidemment, il y aura également quelques points nouveaux à ne pas manquer, tout particulièrement à la notion de dérivation particulière. On va apprendre à dériver de façon particulière un champ ou une intégrale. Ça nous donnera le moyen d'effectuer des bilans, par exemple des bilans de masse, des bilans de quantité de mouvement. Et puis on revisitera les grands systèmes d'équations de la mécanique des fluides, les deux grands systèmes, le système des équations de l'air, le système des équations de Navier-Stokes, qui renvoient chacun à un modèle particulier pour la représentation des efforts intérieurs. Donc on apprendra à faire cela. Et puis, si j'ai le temps, je terminerai par l'énoncé d'un théorème qui pose les bases mathématiques de l'analyse dimensionnelle qu'on appelle le théorème de Vachy-Buckingham. Voilà, donc pour commencer, très largement des rappels. Et tout d'abord, pour ce qui concerne la représentation géométrique de la transformation. Donc pour les fluides, comme vous le savez, nous n'utiliserons pas le mode de représentation lagrangien, nous allons lui préférer le mode de représentation eulérien qui est basé sur la donnée du champ des vitesses à chaque instant. Donc il faut bien apprendre à lire cette affaire-là. U de petit x et de t, vous le savez maintenant, représente la vitesse à l'instant t de la particule qui est actuellement située au point petit x. Voilà donc la définition de la vitesse eulérienne et également le sens de cette notation à bien connaître. Alors, comme on l'a dit, pour ce qui concerne les solides, on a préféré utiliser le mode de représentation dit lagrangien. Alors, on pourra, au besoin, passer du mode de représentation eulérien au mode de représentation lagrangien, c'est-à-dire on pourra passer de la donnée du champ des vitesses aux trajectoires en résolvant un problème de Cauchy avec conditions initiales. De quoi s'agit-il? Eh bien, je vais rechercher la loi horaire de la particule qui est initialement située en grand X, donc soit petit x de t, cette loi horaire. Eh bien, je vais exprimer de deux manières la vitesse. D'une part, en dérivant la loi horaire, et ça, c'est le membre de gauche. Tx sur dt, c'est bien sûr une première façon d'exprimer la vitesse. Et puis, d'autre part, par construction, le vecteur u de petit x de t et de t représente lui aussi la vitesse de la particule qui est actuellement située au point x de t. Donc on résout une équation différentielle ordinaire, d'accord, du premier ordre. Vous avez des techniques pour ça, vous avez appris à les utiliser. On peut utiliser par exemple justement un schéma de l'air. Ou alors un schéma de Runge-Kutta, pas de difficulté, hein. Si on a besoin de résoudre ça de manière numérique, on aura sans doute l'occasion d'illustrer ce genre de mise en œuvre dans la pratique. Et la solution de cette équation, au moins la solution théorique, eh bien, c'est la trajectoire de la particule qui était initialement située en grand X. Et donc c'est la représentation lagrangienne de la transformation. On n'utilisera finalement que de façon assez exceptionnelle cette affaire-là, dans la mesure où, comme je l'ai dit, le mode de représentation que nous allons privilégier pour les fluides est celui qui est proposé par la méthode de l'air. Voilà. Pour la représentation des déformations, on utilisera le taux de déformation, qui est donc la partie symétrique du gradient de la vitesse. Deux choses à bien mémoriser. La trace du taux de déformation, eh bien, c'est la divergence de la vitesse. Et c'est aussi le taux de déformation volumique, d'accord? C'est-à-dire la dérivée particulière de l'élément de volume rapportée à cet élément de volume. Voilà, ce sont des choses qu'on a déjà eu l'occasion de raconter, c'est la raison pour laquelle je suis allé assez vite. Quelques mots encore sur les lignes de courant et les trajectoires qui ont pu faire l'objet d'exercices au début de l'année. Les lignes de courant vont jouer un rôle tout à fait essentiel parce qu'on verra que lorsqu'on s'intéressera à la caractérisation d'un écoulement compatible avec un obstacle de géométrie donnée, eh bien, la géométrie, le contour de l'obstacle aura une propriété particulière qui sera précisément celle d'être une ligne de courant. Donc il faut bien connaître la notion de ligne de courant. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne de courant? D'abord, une ligne de courant est un objet qui est défini à un instant donné. C'est-à-dire qu'une ligne de courant n'est pas quelque chose qui a une histoire, hein, ça n'a pas de passé, ça n'a pas d'avenir, ça n'existe que dans l'instant présent. Et la définition vous est connue, un arc est une ligne de courant si en chaque point de cet arc, la tangente à cet arc est collinéaire à la vitesse en ce point. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un arc? Un arc, c'est une application de Vernon R3, avec par exemple un certain paramètre que j'ai noté ici, petit s, d'accord, pour éviter toute confusion avec le temps. Ok, eh bien, si par exemple, une façon d'exprimer le fait que cet arc est une ligne de courant, c'est de calculer la tangente à cet arc au point de paramètre petit s, c'est évidemment x' de s, et d'exprimer que x' de s est collinéaire à u de x et de s et de t. Ce qui est important, c'est de bien noter ici que nous avons ici s le paramètre et ici t l'instant auquel nous nous intéressons et auquel nous cherchons à déterminer les lignes de courant. Voilà, donc si par exemple on travaille en cartésien orthonormé, voici explicité le produit vectoriel en question. Ça va évidemment me donner trois équations, d'accord, que je peux mettre sous la forme qui est indiquée ici. Encore une fois, notez bien ici x de s, mais ici le temps, d'accord. Et ça va avoir une importance, bien sûr, dans un tout petit instant. Donc, ligne de courant, voici le problème différentiel à résoudre si d'aventure nous avons à les déterminer analytiquement. Alors, les trajectoires auront également un rôle dans la suite du cours. Nous les connaissons très bien, nous venons de montrer comment on pouvait passer de la représentation eulérienne du mouvement à la représentation lagrangienne en résolvant un problème de Cauchy. Voilà à nouveau ce problème de Cauchy, d'accord, dont les solutions sont précisément les trajectoires. Et il est intéressant de réécrire cette équation différentielle en projection sur les trois axes dans un système cartésien orthonormé. Voilà la forme que prennent ces trois projections. Et on note évidemment une similitude qu'on avait déjà eu l'occasion de faire remarquer, d'accord, entre les deux systèmes différentiels qui caractérisent respectivement les lignes de courant et les trajectoires. Mais c'est une analogie qui présente également éventuellement une différence. Notez bien ici que le paramètre dans le premier système, c'est petit s, et non pas le temps qui est ici fixé, d'accord. Alors que dans le deuxième problème différentiel, c'est bien le temps qui est le paramètre de ce système différentiel. Donc on constate que lorsque le champ eulérien des vitesses dépend explicitement du temps, c'est-à-dire qu'il est effectivement présent dans cette deuxième partie de la parenthèse, d'accord, à ce moment-là, les deux problèmes sont mathématiquement distincts, d'accord, et trajectoire et ligne courant ne coïncideront pas. En revanche, lorsque le champ eulérien des vitesses ne dépend pas explicitement du temps, c'est-à-dire lorsque je peux supprimer le temps ici, lorsque le champ eulérien des vitesses ne dépend que de la position, on dit alors qu'on travaille en régime permanent, dans ce cas-là, à l'évidence, les deux problèmes mathématiques coïncident et dans ce cas, les lignes courants et les trajectoires constituent une seule et même famille. Voilà des choses qui avaient déjà été dites, mais qui méritaient sans doute d'être rappelées à nouveau. Ok, alors j'en viens à une notion nouvelle et tout à fait essentielle, qui est la notion donc de dérivée particulière. De quoi s'agit-il? Alors je vais prendre une grandeur physique absolument quelconque, qui est représentée par le champ eulérien T de x et de t, ce qui signifie que la grandeur physique en question prend à l'instant t, d'accord, au point petit x, la valeur t de grand x et de t. On peut penser par exemple pour fixer l'idée à la température ou à la masse volumique ou même à la vitesse, bien sûr, n'importe quelle grandeur physique représentée de manière eulérienne. Et ce qui va nous préoccuper, ce sont les variations temporelles de cette grandeur physique. Mais attention, pas n'importe quelle grandeur, variation temporelle. Ce qui va nous intéresser, ce sont les variations temporelles de cette grandeur physique telle que perçue par une particule au cours de son mouvement. La raison étant qu'on va avoir à exprimer des lois de conservation, que les lois de conservation s'expriment sur la matière. Elles consistent à enregistrer les évolutions temporelles de certaines grandeurs, comme par exemple la masse ou la quantité de mouvement, on va en reparler ultérieurement, d'accord ? Et ce qui m'intéresse, c'est d'être capable de dire comment masse, quantité de mouvement, varie, d'accord ? Masse volumique, par exemple, ou vitesse, ou quantité de mouvement, varie dans la perception qu'en a une particule donnée dans son mouvement dans l'espace. D'accord ? Alors, ma particule était initialement en grand X, elle est actuellement à l'instant T en petit X, et ultérieurement, à l'instant immédiatement ultérieur T plus DT, elle va se retrouver ailleurs, elle va se retrouver en X plus DX. Donc je constate qu'il y a deux raisons pour lesquelles la grandeur grand T va varier au cours du temps. Elle va varier d'une part, évidemment, parce que entre cet instant et celui-là, il y a eu un laps de temps dt qui s'est produit, et le temps intervient explicitement dans l'expression de grand T, mais également la position de la particule a bougé, puisqu'elle s'est déplacée sur sa trajectoire, et comme la grandeur T dépend a priori de la position, eh bien, voilà une deuxième source de variation de la grandeur T. Donc au cours de l'intervalle de temps t plus dt, il y a donc deux raisons pour lesquelles la grandeur physique en question va changer. D'une part, l'effet explicite du temps. D'autre part, le fait que lorsque le temps s'écoule, eh bien la particule se déplace, donc change de position, et donc l'argument petit x est remplacé par l'argument petit x plus d petit x. Voilà. Donc la variation de la grandeur physique T, telle que perçue par la particule, est très simple à évaluer. Il suffit de prendre T en X plus DX et T plus DT, c'est-à-dire les informations relatives à la nouvelle position de la particule à l'instant T plus DT, moins T de X et de T, qui était la valeur qu'évidemment la grandeur physique T avait antérieurement. Donc, ce qu'il est naturel d'appeler variation de t vue par la particule sur sa trajectoire, ou plus exactement le taux d'accroissement de la grandeur t, ça va être t de x plus dx, t plus dt, c'est-à-dire la nouvelle valeur prise par la grandeur physique grand t, moins t de grand x et de t, le tout rapporté par dt. Voilà. Donc, ce que nous avons sous les yeux ici, d'une manière tout à fait artisanale, mais je pense très claire, représente bien les variations de la grandeur physique grand T perçues par la particule initialement située en grand X lorsqu'elle se déplace sur sa trajectoire. Et c'est cela que nous allons appeler la dérivée particulière du champ grand T. À noter évidemment la différence qui est manifeste, mais ça mérite quand même d'être signalé, entre la quantité en question et une simple dérivée partielle. Si je m'intéresse à la dérivée partielle de t par rapport au temps, calculé en x et t, évidemment, eh bien, je vais m'intéresser à la limite quand dt tend vers 0, bah, de t de x, je continue sur ce tableau-là, et de t plus dt, moins t de x et de t, divisé par dt. Évidemment, toute la différence avec la formule que je viens de présenter comme étant la définition de la dérivée particulière réside dans le fait qu'ici, c'est le même point x qui intervient dans les deux expressions de la grandeur t. D'accord ? La nouveauté, évidemment, ici, c'est qu'on considère le déplacement infinitésimal dx qui se produit lorsque le la particule se déplace entre t et t plus dt sur sa trajectoire. Voilà. Alors, techniquement, maintenant, sur le plan mathématique, ben, il y a deux façons de faire. Hein. Une première façon artisanale consisterait tout simplement à prendre un développement limité au premier ordre de Taylor de cette quantité, d'accord ? Ou alors, plus élégamment, peut-être, on peut remarquer que la quantité en question n'est rien d'autre que la dérivée partielle de la grandeur grand T calculée sur sa loi horaire, c'est-à-dire sur sa trajectoire petit x égale phi de grand x virgule T, virgule T. C'est-à-dire en fait qu'on va prendre la dérivée partielle de cette fonction du temps qui intervient doublement du temps, d'une part à cause de la présence du temps explicite, le fait que le champ T dépend explicitement du temps, d'accord, et d'autre part le fait que le temps intervient également à l'intérieur de l'argument de position par le fait même qu'on se déplace sur une loi horaire. Voilà, donc la suite du calcul est très simple. On doit dériver d'abord par rapport au temps explicite, déronté sur déronté.
Et quand tu parles du temps, les élèves ne comprennent pas. Et la vie est dommage.
Ah bon ? C'est peut-être la position du micro ? Est-ce que c'est mieux ?
Bah, ici, ça va. C'est pas vu la santé.
Ah, je vais peut-être mettre le micro carrément près de la bouche. On va voir si ça marche mieux comme ça. D'accord ? Donc alors, la dérivée de la... J'étais en train de prendre la dérivée par rapport au temps de cet objet. On a dit que le temps intervenait à deux reprises dans l'expression. D'accord ? D'une part, par le fait même que le champ T dépend explicitement du temps. C'est le deuxième argument T ici. Et puis d'autre part, il intervient également dans la loi horaire. On vient de le dire. Et ces deux positions, ces deux donc effets du temps dans notre expression vont donc produire respectivement deux termes. Le premier, la dérivée ronde de t par rapport au temps, c'est la dérivée par rapport au temps explicite. Et d'autre part, pour dériver par rapport au temps qui est présent implicitement dans la position, on commence par dériver t par rapport à xi, puis xi par rapport au temps, et la dérivée de xi par rapport au temps, c'est évidemment la im composante de la vitesse eulérienne. Le résultat, c'est que on avait annoncé tout à l'heure que lorsqu'on allait s'intéresser à la dérivée particulière, c'est-à-dire à la variation de la grandeur telle que perçue par la particule, on allait enregistrer deux effets. D'une part, l'effet temps, d'autre part l'effet de changement de position dans l'espace, eh bien on retrouve ces deux effets mathématiquement dans le résultat que nous avons sous les yeux et qui est à connaître absolument, d'accord. Voici l'effet du temps, déronté sur déronté, d'accord. Et voici l'effet du déplacement de la particule dans l'espace, d'accord ? L'information sur la direction dans laquelle se déplace la particule est évidemment contenue dans le vecteur vitesse et elle est conjuguée avec les variations spatiales du champ qui sont décrites par le vecteur ou le tenseur gradient selon l'ordre tensoriel de T. Donc si T est un scalaire, par exemple, hein, mettons que je m'intéresse par exemple à la dérivée particulière de la température, à ce moment-là, évidemment, gradient de T est un vecteur et tout cela, c'est la somme de deux scalaires, mais tout le raisonnement que je viens d'effectuer est évidemment également valable si grand T est un tenseur, un champ de tenseur d'ordre absolument quelconque, par exemple un vecteur, comme on va l'appliquer tout de suite, par exemple pour le cas de la vitesse. Voilà, donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que notre dérivée particulière enregistre deux effets, d'accord ? Et bien sûr, par la présence même de ce deuxième terme, nous voyons extrêmement clairement la distinction entre ce concept et celui de dérivée ronde. J'ai eu l'occasion d'en dire un mot il y a un petit instant. Voilà. Alors, application à l'accélération, parce que c'est une application tout à fait essentielle dans la mesure où l'accélération va intervenir dans les équations de la dynamique. Il faut donc être capable de calculer l'expression de l'accélération. D'accord ? Alors, bah, déjà, quelque chose de tout à fait essentiel, c'est comme mais ça mérite d'être répété à plusieurs reprises, je pense, l'accélération n'est surtout pas la dérivée ronde de la vitesse par rapport au temps. D'accord ? Bien sûr, on a tous en tête que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. C'est vrai, l'accélération enregistre les variations de la vitesse d'une particule sur sa trajectoire. Et donc, par le fait même, l'outil dérivée particulière est adapté au calcul de l'accélération. Donc on va avoir nos deux termes. Le premier, ce sera la dérivée ronde de U par rapport au temps. Et le deuxième, eh bien, c'est le terme de gradient. Gradient, donc je reprends, gradient du champ en question, qui est ici un champ de vitesse, un champ de vecteur, d'accord ? Donc gradient de U contracté avec U. Gradient de U contracté avec U. Voilà. Donc on aura donc systématiquement deux termes, dans le cas général, pour calculer l'accélération, d'accord ? Et, point également à bien comprendre, lorsque je suis en régime permanent, évidemment, ça veut dire que le champ eulérien des vitesses ne dépend pas explicitement du temps, à ce moment-là, le terme de dérivée ronde disparaît, pour autant, il est tout à fait possible que l'accélération soit non nulle. Il suffit pour cela que le champ de vitesse soit hétérogène et que le produit contracté gradient de U contracté avec U soit non nul. D'accord ? Pardon. Voilà donc un point qui est tout à fait sur lequel il faut insister. Je vais illustrer par un petit exemple. Voici la situation d'un régime permanent. D'accord ? Je prends une constante, une transformation dans laquelle le champ aérien des vitesses serait de la forme lambda x, donc il ne dépend pas explicitement du temps. Je suis en régime permanent. D'accord ? Alors, je sais évidemment calculer le gradient de cette affaire-là. Le gradient de cette affaire-là, ça va être le tenseur lambda delta. Et quand je vais contracter lambda delta avec U, ben, je vais trouver lambda carré x. Donc, je vois que ma particule est effectivement accéléré, pour autant, sa vitesse ne dépend pas du temps, d'accord ? Donc, il n'y a pas lieu d'introduire une relation entre le fait que, enfin, il n'y a pas lieu de, surtout de conclure à la nullité de l'accélération lorsque le régime est permanent, bien au contraire. Une accélération sera possible dès lors que le champ de vitesse est hétérogène. D'accord ? À ce moment-là, évidemment, lorsque la particule se déplace dans l'espace, elle enregistre l'hétérogénéité de ce champ, les variations de la vitesse, et elle est donc accélérée. Voilà. Alors, vous pourrez vous entraîner, on ne va pas le faire maintenant, On ne va pas le faire maintenant pour gagner un petit peu de temps, mais vous pourrez vous entraîner, par exemple, au calcul de l'accélération dans un mouvement de corps rigide, d'accord? Je prends un mouvement de corps rigide avec une vitesse de rotation qui dépend du temps, d'accord? Donc, a priori, je vais avoir deux termes. J'aurai un terme de dérivée ronde et j'aurai un terme de gradient. Il est intéressant de faire le calcul direct. Vous n'avez évidemment pas besoin de la formule générale pour calculer l'accélération. Vous pouvez faire un calcul direct et confronter ce calcul direct à la formule que au résultat que donne la formule que nous venons d'apprendre à mettre en œuvre ensemble. Je vous laisse ça à titre d'exercice. Voilà. Alors évidemment, si on s'intéresse à la notion de dérivée particulière, d'accord, c'est parce qu'on a besoin d'exprimer des lois de conservation, et ces lois de conservation, bien sûr, concernent de la matière. C'est pour ça que ce qui nous intéresse, ce sont les variations des grandeurs physiques perçues par la matière. Donc on va tout de suite se donner un exemple qui est tout à fait essentiel, qui est celui de la masse. D'accord ? Une première façon d'exprimer la conservation de la masse, c'est de considérer une certaine particule qui occupe initialement un certain volume d'oméga 0, dans lequel elle a une certaine densité, une certaine masse volumique rho 0, d'accord ? Voilà pour la configuration initiale de ma particule. Et puis, à un instant ultérieur, cette particule a changé, cette particule matérielle occupe un autre volume, et évidemment, a priori, avec un volume différent, d oméga t, et puis la masse volumique a changé, elle est devenue égale à rho t. Ce qui se conserve entre l'instant initial et l'instant actuel, c'est bien sûr le produit rho d oméga, c'est-à-dire la masse. D'accord ? Donc voici en rouge, bien sûr, une manière tout à fait naïve et mais tout à fait recevable d'écrire la conservation de la masse pour une particule élémentaire. Alors, puisque la quantité rho indice t d oméga t se conserve dans le temps, d'accord, se conserve pour une particule donnée, eh bien l'outil dérivée particulière me permet d'exprimer la conservation de la masse tout simplement en écrivant que la dérivée particulière de la quantité rho indice t d oméga indice t est égale à zéro. Alors c'est ce qu'on va faire ensemble avec la convention que rho point ou d oméga point, d'accord, le point situé au-dessus signifie dérivée particulière. D'accord, c'est une autre notation. On peut utiliser soit la dérivée droite, d'accord, soit le point au-dessus de la quantité. Dans les deux cas, ça exprime la même quantité physique qui est la dérivée particulière. D'accord ? Voilà, alors faisons le travail ensemble, on dérive ce produit comme n'importe quel produit, c'est-à-dire que la dérivée de rho d oméga, ça va me donner rho point d oméga plus rho d'oméga point. D'accord ? Voilà, donc la première ligne, la ligne du dessus, est tout simplement l'expression de la dérivée de ce produit, et bien sûr le résultat est égal à zéro, ça c'est le principe de physique de conservation de la masse. En revanche, a priori il y a une dérivée particulière non nulle de la masse volumique et une dérivée particulière non nulle de l'élément de volume d'oméga t. D'accord ? Alors tout à l'heure on s'est rappelé que la trace de D, aussi la divergence de U, eh bien c'était le taux de déformation volumique, c'est-à-dire le quotient d oméga point sur d oméga. Donc en divisant l'équation qui est ici par d oméga, je fais apparaître rho point plus rho d oméga point sur d oméga, c'est-à-dire la divergence du champ eulérien des vitesses. D'accord ? Donc première écriture de la conservation de la masse, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Première écriture de la conservation de la masse, rho point plus rho div de u est égal à zéro. Maintenant, nous savons exprimer rho point. Rho point, c'est la dérivée particulière de la masse volumique, donc ça va être la dérivée ronde de rho par rapport au temps, plus le gradient de rho contracté avec u. C'est-à-dire j'applique la définition le mode de calcul de la dérivée particulière sur lequel on a pris pas mal de temps tout à l'heure. Voilà, alors on va expliciter cette affaire-là. Donc, première ligne ici, eh bien, l'expression de la dérivée particulière de la masse volumique, ni plus ni moins, d'accord. Et puis, au-dessous, j'ai rappelé une petite identité de calcul tensoriel que vous pourrez vous entraîner à vérifier si vous avez le temps et si vous en avez l'envie, d'accord. Et si je combine, si j'introduis donc cette expression de rho point dans notre expression de la conservation de la masse et que j'utilise l'identité de calcul tensoriel que je viens d'évoquer, eh bien, je vois apparaître une nouvelle forme de l'écriture de la conservation de la masse, qui est eulérienne par nature, d'accord, qui s'exprime donc sous la forme que vous avez sous les yeux ici, dérivée ronde de rho par rapport au temps plus divergence de rho u égale à zéro. Alors c'est sous cette forme que nous retiendrons l'expression eulérienne de la conservation de la masse, l'expression locale de la conservation de la masse, et cette équation porte souvent, je le dis à titre indicatif, le nom d'équation de continuité. Voici l'expression eulérienne de la conservation de la masse. D'accord ? Les ingrédients, hein, c'est ça qui faisons un tout petit retour. Comment on a obtenu cette relation ? Ben, on a utilisé un principe de physique, la conservation de la masse, d'accord ? Et un outil mathématique, la notion de dérivée particulière. Et on a appliqué la notion de dérivée particulière ici à un scalaire qui était la masse élémentaire d'une particule, d'accord ? Qu'on a explicité comme le produit d'une masse volumique et d'un volume, bien sûr, les deux, la masse volumique et le volume, étant susceptibles d'évoluer au cours du temps. Voilà. Donc on sait mettre en œuvre cet outil de dérivée particulière pour exprimer des lois de physique. D'une manière plus systématique, lorsqu'on travaillera au profit de systèmes matériels, on aura besoin de dériver pas seulement des champs, mais de dériver également des intégrales, qui pourront être des intégrales de ligne, des intégrales de surface ou des intégrales de volume. Je vais détailler ici le calcul dans le cas d'une intégrale de volume. Voilà. On peut à nouveau reprendre la problématique de la conservation de la masse, par exemple, hein, pour illustrer mon propos, en disant, tiens, voilà, j'ai un certain volume de l'espace, d'accord, et je vais m'intéresser au système matériel qui est contenu dans ce volume à un instant donné. Et je vais le suivre, à partir de maintenant, dans ses évolutions, d'accord. Donc, je me donne à un certain instant un certain volume, ok. Ce volume délimite un système matériel. Ce système matériel, je décide de le suivre dans ce mouvement. Donc, c'est toujours cette notion de dérivée particulière, d'accord. Et je voudrais connaître les variations de telle ou telle quantité physique se rapportant à mon système au cours du temps, lorsque je suis les évolutions de mon système au cours du temps, sachant qu'il a été défini comme étant la matière contenue dans un volume bien identifié à un instant donné. D'accord ? Voilà. Alors, soyons un petit peu plus précis. La grandeur physique qui m'intéresse va être représentée de manière eulérienne par une certaine densité, que je note ici de manière formelle B de X et de T. Donc par exemple B de X et de T, ça peut être eh bien rho de X et de T, d'accord, si je m'intéresse à la masse. Si je m'intéresse à la masse, pour calculer la masse de mon système, eh bien je vais devoir intégrer la masse volumique B de X et de T égale rho de X et de T, d'accord, sur la totalité du volume oméga T. Ok. Et donc si je veux exprimer la conservation de la masse, je vais donc m'intéresser à l'intégrale sur le domaine oméga indice T de mon B de X et de T, c'est-à-dire rho de X et de T, si je m'intéresse à la masse, d'accord, et je vais vouloir suivre les variations dans le temps de cette quantité. D'accord ? Alors, il y aura deux choses à faire. Il y aura un principe de physique à énoncer, bien sûr, à partir d'un certain moment. J'aurai à exprimer un principe de physique. Donc, par exemple, dans le cas de la conservation de la masse, eh bien, le principe de physique consistera à dire que le résultat du calcul en question, ben, ça fait zéro, bien sûr. Et puis, il y a un travail mathématique. Il faut apprendre à calculer ce genre de quantité. Comment calcule-t-on ce genre de quantité ? Ben, il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est que le temps intervient explicitement dans l'intégrande. Et puis la deuxième difficulté, c'est que le domaine d'intégration évolue. D'accord ? Donc on va prendre la dérivée par rapport au temps d'une intégrale, d'accord, sur un domaine mobile avec un intégrant dépendant éventuellement explicitement du temps. Voilà donc les deux difficultés auxquelles il faut faire face. Je rappelle que si on s'intéresse à ça, c'est pour exprimer de la physique, bien sûr. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Il y a d'une part l'outil de calcul mathématique. Est-ce que je sais calculer la dérivée particulière d'une intégrale de volume sur un volume mobile ? D'accord ? Et puis d'autre part, il y a le principe de physique qui viendra après, ou plus exactement d'une manière conjointe bien sûr, mais il n'y a pas lieu de mélanger les choses pour le moment. C'est-à-dire que dans le transparent que je vais présenter ici, bien sûr, je suis en train d'essayer de fabriquer un outil mathématique pour exprimer de la physique, mais dans ce que je vais faire ici, ce ne sont que des maths. D'accord ? Et donc j'ai cité les deux points qui sont essentiels sur le plan mathématique et qu'il ne faut pas rater, qui sont la présence du temps, les effets du temps qui se situent à deux niveaux, présence dans l'intégrande, présence dans le domaine d'intégration. Alors voilà, on veut apprendre à calculer la dérivée dite particulière de l'intégrale rouge ici, d'accord ? Et pourquoi l'appelle-t-on une dérivée particulière une dernière fois ? C'est parce qu'évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de prendre la dérivée de cette intégrale, sachant que le domaine d'intégration bouge avec la matière. Je suis mon domaine d'intégration dans le mouvement qui est lié au champ eulérien des vitesses u de x et de t. D'accord ? Donc à l'instant T, ben le domaine d'intégration, c'était le domaine bleu. À l'instant immédiatement ultérieur T plus DT, ben le domaine d'intégration, il a évolué dans l'espace. Ce n'est plus le même. D'accord ? Et donc en fait, bien sûr, d'une manière tout à fait artisanale, il est parfaitement exact de dire que cette affaire-là, ça va être un taux d'accroissement, ça va être l'intégrale sur le domaine rouge de b de x virgule t plus dt, d'accord ? Moins l'intégrale sur le domaine bleu de b de x virgule t, le tout divisé par dt, et ensuite on fait tendre dt vers 0. D'accord ? Donc sur le plan, j'allais dire, strictement artisanal, pour savoir ce qu'on cherche à calculer, il n'y a aucune espèce d'ambiguïté. Il y a un système, un domaine d'intégration qui bouge, d'accord ? Et on intègre sur ce domaine d'intégration mobile un intégrande qui, lui également, est susceptible d'évoluer en fonction du temps. D'accord ? Voilà. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre techniquement ? Bon, c'est pas bien difficile. Ce qu'on va faire, c'est que on va revenir à la notion de somme de Riemann et on va se dire que bah, pour dériver particulièrement mon intégrale de b de x virgule t dv, eh bien il suffit de dériver b dv. D'accord ? Il faut dériver particulièrement le produit B dv, exactement comme tout à l'heure, on a appris à dériver le produit rho dv. D'accord ? On avait un rho d oméga, on a appris à le dériver. D'accord ? Bon, ben, il n'y a aucune espèce de difficulté, hein. Donc, ce que je suis en train de raconter, c'est que, ben, une façon très simple, hein, de prendre le problème, ok, et qui est sous-tendue par la notion de somme de Riemann, d'accord, consiste à dériver, non pas l'intégrande, mais le produit de l'intégrande par la mesure. D'accord ? Évidemment, si j'oublie de dériver la mesure, j'ai pas tenu compte des changements dans l'espace de la du passage du bleu au rouge, si vous voulez. Hein. J'ai pas tenu compte de la mobilité de mon système d'intégration et donc j'ai tout faux. Voilà. Alors si je fais ce que je viens de dire, c'est-à-dire si je dérive BdV, eh bien je vais avoir d'abord la dérivée de B par rapport au temps, et il s'agit d'une dérivée particulière, bien sûr. Et puis j'ai une deuxième contribution qui est la contribution B dv point. Et dv point, c'est divergence de udv. D'où le fait que, à côté de ce premier terme, eh bien, j'en ai un deuxième qui, ben, justement, prend en compte les évolutions dans l'espace, la mobilité dans l'espace de mon domaine d'intégration. Ok, très bien. Voici une première façon de travailler. Or, dB sur dt nous est connu, on peut l'expliciter. Hein. dB sur dt, bah, c'est la somme d rond B sur d rond t plus un terme gradient de B contracté avec U. Voici mon terme gradient de B contracté avec U. Ok. Et puis, j'associe gradient de B contracté avec U avec le terme B divergence de U. J'utilise une identité remarquable, d'accord, d'un type similaire à celui que j'ai valorisé tout à l'heure dans le cas de la conservation de la masse, et je fais apparaître l'objet divergence de BU. Donc, c'est simplement le passage de cette ligne à celle-là est simplement un... qu'on utilise une identité de calcul tensorielle et la définition de la dérivée particulière du champ scalaire petit b. Voilà. À ce stade, eh bien, il me reste à appliquer le théorème de la divergence sur la deuxième intégrale et j'en aurai fini. Pour énoncer le théorème sur la dérivée particulière d'une intégrale de volume, quand on a dérivé un champ de manière particulière, on a obtenu deux contributions qui étaient liées à l'effet du temps explicite et au mouvement de la particule dans l'espace. Eh bien, ici, c'est un petit peu la même chose. Lorsqu'on va prendre la dérivée particulière d'une intégrale de volume, on va enregistrer une contribution qui est liée au fait que le champ B dépend éventuellement explicitement du temps. Ça, c'est la première intégrale, et c'est une intégrale de volume, d'accord ? Et un deuxième terme, d'accord, qui rend précisément compte du changement de position dans l'espace de mon système, qui rend compte du fait que je suis en train d'intégrer sur un domaine mobile. Comment le voit-on ? Ben, c'est relativement simple. Lorsque je vais prendre un élément de frontière sur la frontière de oméga t, d'accord, ben cet élément de frontière, il va être évidemment, il a une certaine normale nds, d'accord, et une certaine vitesse u, d'accord. Évidemment, pendant le temps dt, eh bien cet élément va se déplacer. Il va balayer un certain volume, et ce volume, bah, ce n'est rien d'autre que le produit scalaire UDT scalaire NDS. D'accord ? Eh bien, c'est exactement ce que je retrouve dans l'intégrande du deuxième terme. Le produit UNDS représente, par unité de temps, le volume qui est balayé par l'élément d'air orienté NDS. D'accord ? Et il reste à multiplier par B pour voir, pour avoir la contribution de la zone acquise par le domaine oméga t ou de la zone perdue, hein, avec évidemment un signe qui dépend. Par exemple, ici, vous voyez que vous avez bah, des zones, ici j'ai une zone qui a été gagnée par le domaine entre l'instant t et l'instant t plus dt, de la même manière ici, et puis ici j'ai des zones qui ont été perdues par le domaine, d'accord. Bon, ben, ça voudra dire que le produit U scalaire NDS n'a pas évidemment le même signe sur cette oreille ici ou sur celle-là, d'accord. Bon, je crois que ce sont des choses assez simples, hein. Et
finalement, donc l'intégrale de bord que nous avons sur que nous avons comme deuxième contribution dans le calcul de la dérivée particulière d'une intégrale de volume est donc bien le terme qui rend compte du fait que j'ai intégré sur un domaine mobile. Alors dans la pratique, parce que pour le moment ça ce n'est que des maths, dans la pratique les choses vont se passer d'une manière relativement sympathique. Quand on va utiliser ce théorème, le plus souvent on va l'utiliser dans une situation de régime permanent, d'accord ? Et dans ces conditions, cette intégrale disparaîtra, d'accord ? Et donc la dérivée particulière de notre intégrale de volume se réduira à ce terme de bord, d'accord ? Et on verra dans la pratique que ben, le plus souvent, ce terme de bord est assez facile à déterminer et il restera à ce moment-là, comme je l'ai annoncé, à se souvenir de la physique que l'on cherche à exprimer. Est-ce que je suis en train d'essayer de faire un bilan de masse? Est-ce que je suis en train d'essayer de faire un bilan de quantité de mouvement? Et c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'il faudra invoquer un principe de physique. Mais ça, je ne le fais pas. Nous ferons ça ultérieurement, par exemple, tout à l'heure, dans les travaux dirigés. Voilà. Donc, j'en ai fini avec la notion de dérivée particulière. Et je vais attaquer maintenant les grands systèmes d'équations de la mécanique des fluides, c'est-à-dire le système des équations de l'air, le système des équations de Navier-Stokes. Ok. Alors, bon, on a déjà évidemment évoqué ces choses-là au début du S1, mais ça vaut le coup de reparler un petit peu posément de ces affaires-là. Le premier grand modèle, et on l'utilisera, vous allez le voir, abondamment, y compris pour des problématiques industrielles, celle qui nous intéresse tout particulièrement, qui est l'interaction fluide-structure dans le cas d'un obstacle profilé. Le premier grand modèle, donc, ben, c'est le modèle de fluide parfait. Dans le modèle de fluide parfait, eh bien, on admet qu'on peut représenter les efforts intérieurs par un tenseur de type pression, c'est-à-dire quelque chose de la forme moins P delta. D'accord ? Donc, par nature, bien sûr, à ce stade de votre formation de mécanique continue, j'ai plus besoin d'insister sur ce genre de choses. Ça veut dire que la force surfacique qui s'exerce sur une facette orientée est normale à cette facette et que, par construction, le modèle de fluide parfait, à l'évidence, stipule qu'il n'y a pas d'effort tangentiel sur une facette matérielle. Ça veut évidemment dire, hein, mais autant insister là-dessus, que par construction, même le modèle de fluide parfait ne prend pas en compte la notion de viscosité. En ce sens, bien sûr, il représente une idéalité et en fait un écart à la réalité. Il conviendra donc, et on essaiera de faire ça à la fin de l'amphi, il conviendra donc de savoir dans quelle mesure ce modèle peut-être utilisé, est-ce qu'il a des chances de conduire à des prévisions réalistes, ou est-ce qu'au contraire, il pêche par trop de simplisme. Voilà, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'amphi. Alors, l'obtention des équations de la dynamique est une conséquence immédiate des outils que nous avons mis en œuvre ensemble dans le cadre du S1. Vous connaissez parfaitement la structure de l'équation locale de la dynamique. Divergence de sigma plus le terme de force à distance est égal au terme inertiel, rho gamma. Ah, cette fois-ci, le terme rho gamma ne va plus disparaître. On a fait beaucoup d'élastostatique, mais vous verrez qu'on fera intervenir de manière quasiment systématique le terme inertiel dans nos équations désormais. D'accord. Alors, ce que nous avons en bleu au-dessous, c'est la réécriture de cette équation locale de la dynamique en spécifiant que sigma est un tenseur de type pression. Donc, la divergence de moins P delta, c'est évidemment moins le gradient de P. Et ce que j'ai écrit ici, c'est l'expression de l'accélération en tant qu'elle est la dérivée particulière de la vitesse. D'accord, donc avec ces deux termes, des ronds U sur des ronds T, d'une part, gradient de U contracté avec U, d'autre part. Est-ce que je peux résoudre un tel problème? On va faire l'inventaire des inconnus. Eh bien, j'ai 5 inconnus. J'ai 5 inconnus. J'ai la masse volumique, rho. D'accord? J'ai la pression, P. Et puis, j'ai le champ eulérien des vitesses, qui représente à lui seul 3 inconnus. D'accord? 3 champs scalaires. Donc, j'ai 5 champs scalaires inconnus. Et donc, évidemment, l'équation locale de la dynamique, à elle seule, ne va pas permettre de déterminer ces 5 champs inconnus. D'accord? Donc on va distinguer plusieurs catégories. Première situation, la situation du fluide incompressible. Et c'est une situation qui est tout à fait essentielle, hein, et qu'on utilisera abondamment dans la suite du cours. Donc elle mérite d'être mis un petit peu en exergue et d'y passer un tout petit peu de temps. Alors, si le fluide est incompressible, bien sûr, rho n'est plus une inconnue. D'accord? Donc, je n'ai plus que 4 inconnues scalaires qui sont les 3 composantes de la vitesse et la pression. Il me faut une équation complémentaire, et bien c'est l'équation de continuité, l'équation de conservation de la masse dans sa forme eulérienne, telle que nous l'avons présentée tout à l'heure, la dérivée de rho par rapport au temps plus divergence de rho u égale à 0, et bien si rho est une constante, ça se réduit à divergence de u égale à 0. Donc divergence de u égale à 0, bien sûr, a priori ça se présente comme l'écriture du caractère isochore d'une transformation définie par un champ eulérien de vitesse u de x et de t, d'accord? Mais dans le cas présent, c'est pour nous la forme dégénérée de l'équation de conservation de la masse si la masse volumique est une constante. D'accord? Ce faisant, eh bien, on se retrouve avec 3 équations scalaires données par l'équation de la dynamique, une équation scalaire donnée par l'équation de continuité, 4 équations scalaires, donc pour 4 champs inconnus, le compte est bon. Une autre situation qui mérite d'être mentionnée, c'est la situation du fluide dit barotrope. Alors, hein, on dit qu'on est dans une situation de fluide barotrope si on peut établir une relation biunivoque entre pression et masse volumique. Eh bien, ça peut se faire dans 2 situations. Ça peut se faire si je suis par exemple dans une évolution isotherme. Ça peut se faire aussi si je suis dans une évolution adiabatique réversible, d'accord, dans laquelle, vous le savez, vous allez avoir, par exemple, les fameuses équations de Laplace, hein, une relation biunivoque entre pression et masse volumique, d'accord. À ce moment-là, évidemment, rho n'est plus une donnée, d'accord, mais vous avez une équation d'état qui se rajoute à l'équation de continuité. Voilà donc 2 équations supplémentaires qui viennent compléter les 3 équations scalaires de la dynamique. Et vous vous retrouvez, vous avez authentiquement 5 champs inconnus, mais vous avez bien les 5 équations scalaires qui vont bien pour déterminer les champs inconnus en question. Donc dans la situation du fluide barotrope, il n'y a pas de difficulté non plus, et comme je viens de le dire, la situation du fluide barotrope renvoie à 2 régimes thermiques, j'allais dire extrêmes, le caractère isotherme, le caractère adiabatique réversible. D'accord? Enfin, il y aurait le cas général, bien sûr, du fluide compressible en présence de variations température. Et bien là, il faut écrire l'ensemble des équations de la thermo, en particulier le premier principe, se donner un modèle de transfert de chaleur, la loi de Fourier, bien sûr, mais cela dépasse complètement le cadre de notre cours, et donc je n'en dis pas davantage. Mais sachez, bien sûr, qu'il existe tout un corpus de connaissances à ce sujet. Voilà. Je reste encore avec le fluide parfait pour quelques instants pour énoncer une première forme de ce que nous allons appeler le théorème de Bernoulli. On en verra mercredi prochain un énoncé plus puissant, mais dans un cadre d'hypothèse un peu plus conséquent. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, le théorème de Bernoulli, dans la forme que je vais énoncer ici, n'est rien d'autre qu'une intégrale première, en fait, au sens qu'on donne à la notion d'intégrale première en mécanique, hein. C'est-à-dire, c'est en fait une intégrale de l'équation de la dynamique. Alors, je vais me placer dans le cas particulier où les forces à distance dérivent d'un potentiel, hein, d'accord? Donc, voici ma force massique grand F, elle est de la forme moins gradient de V, d'accord? Donc, par exemple, ben, si F, c'est l'accélération de la pesanteur, d'accord? Ben, bien sûr, vous pourrez considérer comme potentiel V, ben, tout simplement GZ, où Z est la coordonnée d'espace ascendante, hein. Donc c'est une situation qu'on va rencontrer assez fréquemment dans les applications, d'accord, hein, je peux l'écrire. V égale à GZ, où Z est l'axe ascendant. D'accord? Voilà donc une situation, voilà donc une hypothèse sur les forces à distance. Elles dérivent d'un potentiel, en l'occurrence d'ailleurs ici, indépendant du temps. Voilà. Alors, si vous ne regardez que ce qui se trouve à l'intérieur de ces deux parenthèses et que vous cherchez la valeur du résultat, ben, vous devez dire avec moi que ça vaut zéro. Pourquoi? Ben, parce que j'ai tout simplement écrit moins gradient de P, d'accord, plus ρf égale à ρ du sur dt, d'accord? Donc en mettant tout le monde du même côté et en divisant par ρ, ben ça me donne du sur dt plus 1 sur ρ gradient de P plus gradient de V égale à 0. Voilà. Donc ce que j'ai entre mes parenthèses est une quantité qui est nulle, d'accord? Et cette nullité n'est ni plus ni moins que l'équation de Euler, plus exactement l'équation locale de la dynamique dans l'hypothèse d'un fluide parfait et dans l'hypothèse où les forces à distance dérivent d'un potentiel. Alors maintenant, je prends le produit scalaire de cette affaire-là avec le champ eulérien des vitesses et je vais analyser chacun des termes. Eh bien, je constate que le premier terme est un terme sympathique parce que c'est une dérivée par rapport au temps, une dérivée particulière. D'accord? U scalaire du sur dt, c'est évidemment la dérivée particulière. Je dis que c'est une dérivée particulière parce que j'utilise un d droit. C'est la dérivée particulière de u carré sur 2, de manière tout à fait évidente. D'accord? Le dernier terme, u scalaire gradient de v. Ah, u scalaire gradient de v, est-ce que c'est une dérivée particulière? Ben, pour que ça le devienne, on va se passer en régime permanent. Donc, si je m'intéresse à la dérivée particulière du champ V, si je m'intéresse à la dérivée particulière du champ V, qu'est-ce que je trouve? Bah, quelqu'un dit, regardez, c'est GZ, ça dépend pas du temps, la dérivée de V par rapport à T, ça fait zéro. Bien sûr que non. D'accord? On est bien conscient que lorsqu'on s'intéresse à cet objet, on s'intéresse aux variations de la quantité G2Z perçue par une particule qui se déplace dans l'espace. Donc, si cette particule change de coordonnées z, évidemment, la dérivée sera non nulle. D'accord? Donc c'est bien le sens, il faut bien s'arrêter à ça. La dérivée de v par rapport au temps, bien sûr, intègre le fait que si ma particule se déplace dans l'espace, éventuellement la coordonnée z varie, et à ce moment-là, évidemment, il y a une contribution. Bon, ben, on a appris que cette chose-là est la somme d'une dérivée ronde de v par rapport au temps, plus d'un terme de la forme gradient de v, contracté avec u, scalaire u en l'occurrence. Si je me place en régime permanent, et c'est l'hypothèse que je fais désormais, eh bien ce terme-là disparaît, et par conséquent, je constate que le produit scalaire gradient de v scalaire u n'est autre que la dérivée particulière du potentiel V par rapport au temps. Donc le dernier terme, U scalaire gradient de V, et le premier terme, U scalaire DU sur DT, sont tous les deux, dans l'hypothèse de régime permanent bien sûr, des dérivées particulières. Que dire du terme du milieu? Ah, U scalaire gradient de P, bah je peux reproduire pour P exactement ce que je viens de dire pour V. U scalaire gradient de P, c'est, encore une fois, dans l'hypothèse de régime permanent, la dérivée particulière de la pression. D'accord? Donc le produit U scalaire gradient de P décrit les variations temporelles de la pression telles que perçues par ma particule lorsqu'elle se déplace dans l'espace. Ok? Bon, mais il y a le facteur 1 sur O qui me casse un tout petit peu les pieds. Alors pour pouvoir avancer, je vais rajouter une dernière hypothèse. D'accord? Première hypothèse, c'était force à distance dérive d'un potentiel. Deuxième hypothèse, c'était régime permanent. Troisième hypothèse, ça va être l'incompressibilité. À ce moment-là, eh bien, ce que je constate, c'est que chacun de mes trois termes est une dérivée particulière. D'accord? Voilà. dp sur dt égale gradient de p, scalaire u. dv sur dt égale gradient de v, scalaire u. D'accord? Et en définitive, eh bien, je peux réécrire mon affaire, là. Je sais que ça vaut zéro. Pourquoi? Bah parce que c'est ce qui est entre les parenthèses. Ce qui est entre les parenthèses est identiquement nul, d'accord? Eh bien, je peux mettre ce résultat sous la forme dérivée particulière d'un objet qui est la somme de trois contributions et qu'on va appeler la charge, d'accord? La dérivée particulière de la charge, encore appelée parfois charge hydraulique, d'accord? Cette dérivée particulière est nulle. Alors, ben, on retrouve le u carré sur 2, le p sur o et le v, bien sûr. Chacune de ces trois contributions intervient dans l'expression de la charge. D'accord? Et comment faut-il comprendre le résultat dérivé par rapport au temps de cette quantité égale à 0? Ben, ça veut dire que cette quantité ne varie pas sur une trajectoire. Hein, par le fait même que d sur dt représente la dérivée particulière, c'est-à-dire les variations d'une quantité lorsqu'on se déplace sur une trajectoire, et ben la nullité du résultat me dit que ben la quantité en question sur la trajectoire va garder une valeur constante. D'accord? Donc premier énoncé du théorème de Bernoulli, la charge garde une valeur constante sur les trajectoires. Mais attention, pour l'instant, d'accord, ben j'ai évidemment une infinité de trajectoires possibles, a priori, pour le champ de vitesse que je considère, eh bien, j'aurai autant de constantes que de trajectoires, hein, pour l'instant. Okay. On verra donc mercredi qu'il faut une hypothèse plus forte, on peut la dévoiler dès maintenant, hein. Ce sera le caractère irrotationnel du champ de vitesse qui nous permettra de nous en sortir. Si je suppose que le champ de vitesse est irrotationnel, on verra en fait que la charge est uniforme dans tout l'espace, d'accord? Mais si je ne me donne pas cette hypothèse de mouvement irrotationnel, alors a priori la charge dépend de la trajectoire qui est considérée. Alors on aura l'occasion d'illustrer ce théorème que ceux qui ont déjà fait de la mécanique des fluides ont abondamment pratiqué. Simplement pour fixer les idées, hein, il faut que j'avance. Ben on pourra. J'ai même pas le temps de le faire malheureusement puisque je vois que l'heure tourne, mais on aura l'occasion de faire ça dans les applications. Voilà. Alors. J'en ai terminé avec le fluide parfait, qui m'a donc donné les équations de l'air et pour lequel je viens d'énoncer le théorème de Bernoulli. Le fluide visqueux maintenant. Alors il a été déjà Finalement assez significativement illustré au S1, donc je peux aller assez vite. Quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'en fait, je suis conscient que des limites du modèle de fluide parfait. On l'a dit tout à l'heure, dans le cas du modèle de fluide parfait, l'effort qui s'exerce sur une facette matérielle, d'accord, est purement normal. On sait très bien qu'il n'en est pas ainsi dans un fluide en mouvement et qu'a priori, il faut corriger le terme sphérique des efforts intérieurs dans un fluide par un terme qu'on va appeler le tenseur de contraintes visqueuses, okay, qui par nature dépend du taux de déformation. D'accord ? Donc en fait, les efforts intérieurs vont être la somme de deux contributions. Une contribution qui prévaut au repos et qui est donnée par l'équation d'état. Cette contribution est sphérique par nature, d'accord? Et l'équation d'état, c'est la connaissance de la pression en fonction de la masse volumique et de la température, d'accord? Mais si le fluide est en mouvement, on corrige ce terme sphérique d'un terme qui rend compte des effets du mouvement et qui, à ce titre, dépend du taux de déformation et qu'on appelle le tenseur des contraintes visqueuses. Alors, le premier modèle auquel on a envie de penser, bien sûr, ça va être un modèle linéaire, d'accord ? C'est-à-dire une relation, c'est-à-dire la situation où les contraintes visqueuses vont dépendre linéairement du taux de déformation. Et qui plus est, on peut avoir envie de s'intéresser à la situation où cette dépendance est non seulement linéaire, mais également isotrope. Alors dans ce cas-là, on peut déjà annoncer le résultat à cause de notre culture de mécanicien. On a vu qu'il existait, quand on s'est intéressé à la loi de comportement élastique linéaire, d'accord, on s'est intéressé en particulier, pas seulement, mais en particulier à un modèle isotrope. Et on a appris à calculer les contraintes comme une fonction linéaire isotrope de la déformation. Et on sait très bien la structure du résultat. Eh bien, cette structure est formellement exactement la même pour la relation taux de D, pour des raisons qui sont tout à fait naturelles, puisque les ingrédients mathématiques sont les mêmes, linéarité, isotropie. D'accord ? À partir du moment où je dis que taux dépend d'une manière linéaire et isotrope de D, d'accord, je vais retrouver exactement le même résultat que lorsque je dis que sigma dépend d'une manière linéaire et isotrope de epsilon. Donc il n'y a pas lieu de s'étonner de l'analogie formelle entre le résultat que j'énonce ici et celui qu'on a pu appeler le système des équations de Lamé quand on écrivait sigma égale lambda trace de epsilon delta plus de mu epsilon, hein. L'analogie n'est pas physique, l'analogie est strictement mathématique. L'origine est strictement mathématique, les ingrédients étant linéarité, isotropie. Bien sûr, lambda et mu n'ont pas ici la dimension qu'avaient les coefficients de Lamé, puisque taux est une contrainte, D est un taux de déformation, comme un taux de déformation s'exprime comme l'inverse d'un temps, eh bien, ça veut dire que lambda et mu ici s'expriment en pascal seconde. C'est le produit d'une contrainte par un temps. D'accord? Enfin, voilà ce qu'on appelle donc le modèle de fluide newtonien, la situation où taux dépend d'une manière linéaire et isotrope du taux de déformation. Mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement dans les applications, nous, c'est la situation du fluide newtonien incompressible. Dans ce cas-là, eh bien, on retombe dans le commentaire que j'ai fait tout à l'heure. Incompressibilité, la forme dégénérée de la conservation de la masse, ça va être divergence de U égale trace de D égale à zéro. Ah bon, si trace de D égale à zéro, ça veut dire que le terme des contraintes visqueuses ne comporte, est directement proportionnel au taux de déformation qui, lui, est à trace nulle. D'accord? Si bien que, maintenant, mes contraintes de Cauchy vont être la somme d'une partie sphérique et d'une partie strictement déviatorique qui sera directement proportionnelle au taux de déformation. Attention, bien sûr, maintenant P n'est plus donné par une équation d'état à partir du moment où mon fluide est un fluide incompressible. Je ne suis plus en mesure de prévoir, de donner la valeur de la pression a priori. La pression sera déduite de la résolution d'un problème aux limites. D'accord ? Il y a sans doute des choses de ce type qui ont été illustrées au début du S1 et on aura l'occasion peut-être tout à l'heure d'en montrer d'autres. Voilà. Simplement un petit dessin pour évoquer la notion de viscosité et deviner comment on pourrait tenter de la mesurer expérimentalement. Eh bien, si j'impose un taux de glissement θ point à un petit carré de fluide qui occupe à l'instant T le volume vert et auquel j'impose un champ de vitesse de glissement de façon à le faire passer du carré vert au parallélogramme rouge, et ben je vois que les efforts qui sont à appliquer sur les faces sont des efforts de cisaillement proportionnels au taux de glissement et que la contrainte de cisaillement s'écrit tout simplement mu θ point. Vous pourrez vérifier ça, c'est un petit exercice qui fixe bien les idées sur le sens du coefficient de viscosité dynamique. Voilà. Alors, on a vu les équations de l'air tout à l'heure. Quelle forme prend l'équation locale de la dynamique dans le cas du fluide visqueux newtonien incompressible ? Bien sûr, déjà, une restriction cinématique divergence de égale à zéro. Pour ce qui est de l'équation de la dynamique, eh bien, rho du sur dt plus div de sigma plus rho f, je remplace sigma par moins p delta plus 2 mu d, le terme moins p delta va évidemment produire, comme précédemment, quand on va prendre la divergence, un terme moins gradient de p. Il reste à calculer la divergence de d. Divergence de d dans l'hypothèse particulière où la divergence de u est égale à zéro. On explicite la divergence de D, la divergence de D en cartésienne orthonormée, dérivée dij par rapport à xj ei, d'accord ? Et on explicite dij comme la demi-somme des ronds ui sur des ronds xj plus des ronds uj sur des ronds xei. D'accord ? On fait opérer la dérivée par rapport à xj sur ce groupement. Et là, on va être habile. Alors, bien sûr, dans le calcul de la divergence de D, il y a lieu de sommer sur l'indice J ici, d'accord ? Et il y a également une sommation sur l'indice I si on veut expliciter le vecteur divergence complètement. Mais si je m'intéresse à la composante numéro I de la divergence, hein, la sommation a lieu sur J. Alors, si je m'intéresse au premier terme, je vois que je vais avoir la somme sur J de la dérivée seconde de ui par rapport à xj, c'est-à-dire en fait le laplacien de la im composante de la vitesse. Voilà pour le premier terme. Pour ce qui est du second terme, ben, il est habile de commuter l'ordre de dérivation, vous voyez, et si on va échanger l'ordre de dérivation entre xui et xj, et on va remarquer qu'en fait, le deuxième terme consiste à prendre la dérivée par rapport à xi de la dérivée par rapport à xj de uj. Mais comme il y a somme sur j, la dérivée de uj par rapport à xj, ça fait 0, puisque ce n'est autre que la divergence de la vitesse. Par conséquent, le deuxième terme disparaît, et on peut conclure que la divergence de d n'est rien d'autre que la moitié du laplacien de la vitesse eulérienne. Et il reste à introduire ce résultat dans l'équation locale de la dynamique pour trouver l'équation de Navier-Stokes qu'on avait déjà eu l'occasion d'utiliser au S1. C'est la raison pour laquelle je me suis permis d'aller un tout petit peu vite. Voilà. Alors cette équation, évidemment, est tout à fait essentielle. D'accord ? On verra qu'on va un petit peu la... La mettre en oubli pour quelques semaines parce qu'on va beaucoup travailler sur le fluide parfait dans un premier temps, mais on s'en souviendra à la fin du cours parce qu'elle jouera un rôle totalement déterminant lorsqu'on étudiera la notion de couche limite. Voilà pour ce qui concerne l'équation de Navier-Stokes. Alors, pareil, petit travail de comptabilité. Combien d'inconnus ? La masse volumique n'est plus une inconnue, d'accord ? On a les trois inconnus scalaires qui représentent la vitesse, et puis l'inconnu pour la pression. Ça fait quatre inconnus pour quatre équations scalaires. Le compte est bon. Ce qui ne signifie nullement, évidemment, que la résolution des équations de Navier-Stokes est une partie de plaisir. Voilà. Alors, laisser la découverte du nombre de Reynolds pour la semaine prochaine. Je vais simplement annoncer de quoi il s'agit. Nous sommes à la tête de deux systèmes différentiels, après de deux systèmes d'équations et de deux modèles de fluide. Le modèle de fluide parfait qui néglige la viscosité et donc les efforts tangentiels que peut exercer un fluide sur un élément de surface orienté, d'accord ? On devine bien sûr que ça va simplifier les choses dans certains cas, mais que ça peut avoir un coût en termes de pertinence physique. Et puis d'autre part, on a le modèle des équations de Navier-Stokes, qui est évidemment a priori plus convaincant, puisqu'il est plus riche sur le plan physique, mais évidemment, il y a a priori un coût à payer en termes de difficulté de résolution. D'accord ? Lequel doit-on choisir ? Existe-t-il des règles simples qui vont nous permettre de décider quand on pourra retenir les équations de Navier-Stokes ? Quand on devra prendre en compte le système complet des équations de Navier-Stokes et quand, au contraire, on pourra se simplifier la vie en négligeant le terme de viscosité. Eh bien, on verra la prochaine fois qu'il existe une règle relativement simple qui est basée sur l'ordre de grandeur d'un nombre sans dimension, qui est le nombre de Reynolds, qui va nous apprendre à comparer les ordres de grandeur du terme inertiel et du terme de viscosité. D'accord ? Donc à partir du moment où on peut juger de l'ordre de grandeur de ces deux termes, eh bien on pourra discerner dans quelle situation le terme de viscosité joue un rôle prédominant, ou au contraire dans quelle situation le terme de viscosité est négligeable. Et donc le nombre de Reynolds nous fournira un premier critère, basique mais efficace, pour discerner dans quel cadre le système des équations de l'air sera suffisant pour modéliser les phénomènes qui nous préoccupent. Et ce sera ce système. Alors, on commencera l'amphi de mercredi prochain précisément par une vision détaillée de cet objet, et on s'empressera ensuite de travailler dans la situation où la valeur de ce nombre nous permettra de nous réfugier dans le système simplifié des équations de l'air. Voilà, j'en ai fini pour cet amphi, et donc je vais vous inviter à rejoindre les petites classes pour ce premier TD. Merci pour votre attention.